Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans De Grain à Moudre. Ce soir, nucléaire iranien, nucléaire nord-coréen, deux poids, deux mesures. Pour une fois, Donald Trump n'a surpris personne en annonçant que les États-Unis se retiraient de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Il l'avait promis, il a tenu parole. Pourtant, cette décision semble prendre le monde de court. Que va-t-il se passer désormais? Quelles conséquences aura cette décision sur les relations internationales? En agissant ainsi, le président américain confirme son penchant pour une approche musclée de la diplomatie. Peut-on d'ailleurs encore parler de diplomatie? Méthode qui, en tout cas, paraît avoir fait ses preuves dans un autre dossier nucléaire, la Corée du Nord. En septembre, après que Pyongyang eut procédé à un nouvel essai, Donald Trump promettait de détruire le pays. L'annonce d'un prochain sommet entre ce dernier et Kim Jong-un sur fond de réconciliation entre les deux Corées n'en est que plus spectaculaire. Il se confirme en tout cas que les équilibres nucléaires reviennent en force au cœur des rapports entre États dans une année qui verra la célébration du 50e anniversaire du TNP, le traité de non-prolifération. Mais selon les cas, la stratégie suivie, on le voit ces jours-ci, n'est pas du tout la même. Alors, nucléaire iranien, nucléaire nord-coréen, y a-t-il deux poids, deux mesures? C'est la discussion que nous allons mener ce soir en compagnie de trois invités. Bruno Tertrais, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur adjoint de la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous travaillez notamment sur les questions de prolifération et de dissuasion nucléaire. Non, vous me faites non, vous ne travaillez plus sur ces questions-là.
Si, mais pas notamment.
Mais pas notamment, d'accord. Exclusivement ? C'est ce que je voulais dire par notamment.
Encore moins.
Bon, ok. La revanche de l'histoire, je ne suis pas sûr d'avoir saisi. La revanche de l'histoire, comment le passé change le monde. Ça, c'est bien votre dernier ouvrage chez Odile Jacob et c'était en 2017. Nicolas Dungan, notre deuxième invité, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de recherche à l'IRIS, vous travaillez sur l'action des États-Unis, de l'Europe dans le monde. Je ne vais pas te dire de notamment ou en particulier, comme ça, voilà, j'éviterai de me planter.
Les deux sont justes.
Vous êtes chargé de cours également à Sciences Po, senior fellow au sein du programme des relations transatlantiques de l'Atlantic Council à Washington. Et puis, notre troisième invité, il est au téléphone, il s'agit de François Nicolau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien ambassadeur de France, vous avez été en poste à Téhéran de 2001 à 2005. Vous vous consacrez aujourd'hui à l'analyse de la politique internationale et notamment sur les questions, sur les questions de non-prolifération. Alors je voudrais qu'on commence cette discussion évidemment avec la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. C'est pas vraiment une surprise. Est-ce que vous considérez les uns et les autres qu'il s'agit d'un retour en arrière, c'est-à-dire un retour à la situation d'avant 2015 ou bien est-ce qu'on est face à une situation totalement inédite, François Nicolau ?
Non, ça ressemble assez, en effet, à la situation juste avant 2015, puisque Trump a promis de rétablir l'ensemble des sanctions qui étaient en place avant 2015, et ça, les Européens notamment, mais en fait, l'ensemble du monde va commencer à sentir l'effet de ces sanctions, et bien entendu, excusez-moi, l'Iran en premier, qui va donc subir très très durement ces sanctions. Je crois que le pari de Trump, finalement, c'est que la pression, la menace, la brutalité paye. Et c'est donc il pense, ça serait bref, mais il pense que Obama a eu le tort de conclure, de négocier un accord trop tôt, avant que les sanctions les plus dures produisent leur plein effet. Donc il se dit que dans un an ou deux, l'Iran tombera à genoux et pourra accepter en effet tout ce qu'il lui demande.
Bruno Tertrais, est-ce que vous êtes d'accord avec cette première analyse ?
Oui, globalement, je suis d'accord. Cette différence, c'est que là, on a vraiment un président américain qui a décidé de mettre le régime iranien à genoux, mais de lui faire rendre gorge, littéralement. On n'est pas officiellement dans une politique de changement de régime, mais ça commence à y ressembler furieusement. Donc, on a une stratégie qui est plus dure vis-à-vis de la République islamique d'Iran que ne l'était celle de George Bush avant Barack Obama. Donc, je dirais que c'est presque pire qu'avant le début sérieux de ces négociations en 2012-2013.
Comment qu'on peut expliquer, Nicolas Dungan, cette dureté de Donald Trump à l'égard du régime iranien? Est-ce qu'il y a quelque chose dans son histoire personnelle qui pourrait l'expliquer?
C'est le seul langage qu'il comprend. J'ai le malheur depuis janvier 2016 de parler de Donald Trump et d'expliquer qu'il représente l'Amérique jacksonienne, c'est-à-dire le Far West. Et lui ne comprend les relations que par des rapports de force. Alors, il y a une experte transatlantique française, d'ailleurs, à Washington, qui a dit hier que, la seule chose qu'il reste à Trump à faire pour défaire tout ce qu'a fait Barack Obama, c'est de ressusciter Osama Ben Laden. Parce que à l'heure actuelle, Trump, qui manifestement déteste Obama parce que Obama l'a insulté, et Trump le prend très personnellement comme tout, donc ce n'est pas seulement vis-à-vis du régime iranien, c'est pour tenir des promesses de campagne. Et ici, et c'est ce dont on va parler, et il faut essayer de réconcilier, qu'il s'agisse de la Corée du Nord ou de l'Iran, trois impératifs différents, celui de chacun des pays à l'intérieur et puis celui de la communauté internationale.
Mais Nicolas Dungan, en disant que Trump va à tout prix défaire ce qu'a fait Obama, est-ce qu'on n'est pas dans une psychologisation un petit peu excessive de ses décisions? Une stratégie un petit peu plus réfléchie derrière ces décisions?
Non, et d'ailleurs, Bruno Tertrais l'a tweeté aujourd'hui même, et il a assisté à une réunion, peut-être vous allez nous en parler, hier, de conseiller américain, il a trouvé qu'il n'y a aucune stratégie. Tout le monde l'a dit, il n'y a pas de plan B.
Bruno Tertrais.
Oui, il n'y a pas de stratégie, mais il y a une tactique. Je crois que l'élément psychologique est important. Et parfois, il faut réduire certaines grandes décisions politiques à la psychologie des dirigeants. Cela arrive, en tout cas, je suis persuadé que l'histoire nous en offre de nombreux exemples. Donald Trump est sincèrement persuadé, à mon avis, qu'il peut réussir avec l'Iran ce qu'il pense avoir réussi avec la Corée du Nord. Il est persuadé que c'est sa stratégie de pression maximale, c'est son expression, pas la mienne, vis-à-vis de Pyongyang, qui a conduit le dirigeant nord-coréen à dire j'accepte un sommet. Bon, c'est à mon avis une erreur historique, et là où c'est grave, c'est que je pense que Donald Trump va être à la fois déçu, mais comme un enfant, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est infantile. Là, je fais rarement des commentaires aussi sévères vis-à-vis des dirigeants politiques, mais avec Donald Trump, je crois qu'il faut l'être. Il va être comme un enfant à qui on fait comprendre que ce qu'il voulait, il ne l'aura pas. Parce que ce sommet, à mon avis, sera un échec. Parce qu'il n'est hors de question que la Corée du Nord, qui joue très finement parce qu'ils ont déjà fait des concessions à l'avance, etc., fasse la moindre concession significative sur son programme nucléaire et balistique, ou alors à un prix qui serait totalement inacceptable pour les États-Unis. Et du côté iranien, donc Trump se dit... ça a marché avec la Corée du Nord, donc je vais faire la même chose avec l'Iran. Donc je crois que c'est une double erreur, à la fois pour la Corée du Nord et à la fois pour l'Iran, puisque c'est le thème de votre émission. Alors, il n'y a pas une stratégie, mais il y a une tactique. Donc, mais il n'y a pas stratégie au sens où il n'y a pas un plan élaboré. Quand on casse de manière aussi brutale le jeu international, au moins, il faut avoir une stratégie. Après, on est d'accord ou pas d'accord, mais enfin, on ne fait pas quelque chose d'aussi grave sans vraiment avoir un plan. Et effectivement, d'après ce que je comprends de nos conversations hier soir avec des gens à la Maison Blanche, il n'y a pas de plan, sauf de tout casser.
Cette idée, François Niccolo, que ce qui a pu marcher pour l'instant, parce qu'on n'en est vraiment qu'au début avec la Corée du Nord, ça pourrait aussi expliquer en partie la décision de Donald Trump, même s'il avait annoncé bien avant, de retirer les États-Unis de l'accord nucléaire. Est-ce que vous diriez, comme Bruno Tertrais, que c'est une erreur d'analyse?
Il y a un effet de miroir, parce que en effet, en sortant de l'accord nucléaire avec l'Iran, au prétexte que cet accord n'est pas assez robuste, qu'il ne détruit pas finalement pratiquement l'ensemble du programme nucléaire iranien, il renvoie un signal à la Corée du Nord en disant « voilà ce que je juge inacceptable, donc n'espérez pas arriver avec moi à un compromis comme vous êtes arrivé, enfin comme plutôt les Iraniens sont arrivés avec Obama ». Pour moi, c'est vraiment la destruction complète de votre programme, le démantèlement complet de votre programme. Alors, en ce qui concerne la dimension psychologique, si je peux dire un mot, je crois qu'en effet, elle est importante parce que dans cette affaire, contrairement aux autres grandes crises qu'a provoqué Trump, il n'y a pas d'intérêt industriel. Quand Trump sort de l'accord du climat, c'est qu'il y a vraiment des intérêts industriels qui sont derrière quand il entre en guerre avec la commerciale, avec la Chine ou l'Europe, c'est parce qu'il y a des intérêts industriels. Dans cette affaire, il n'y a pas d'intérêt industriel. L'affaire iranienne n'a pas d'intérêt industriel pour les Américains. Au contraire, en sortant de l'accord nucléaire, Trump, par exemple, va tuer des milliers d'emplois potentiels chez Boeing, qui espérait vendre une centaine ou plus d'avions à l'Iran, etc., etc.
Oui, mais François Nicolau, il y a peut-être une dimension sécuritaire. Ce que dit le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, l'Iran n'a pas cessé de développer l'arme nucléaire après l'accord de 2015. Et ça, alors, ce sont des propos qui sont étayés par ceux du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a annoncé il y a quelques jours de cela, là aussi, à détenir les preuves comme quoi l'Iran avait continué à étendre son savoir-faire nucléaire malgré cet accord. Est-ce qu'on est dans une forme de manipulation comme elle avait pu avoir lieu en 2003 au moment de l'intervention, enfin avant l'intervention des États-Unis en Irak? On se souvient de Colin Powell qui avait montré une fiole qui était censée démontrer que les Irakiens développaient un programme d'armes biologiques. Ou bien est-ce qu'il est possible quand même que finalement peut-être les experts, notamment de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, aient été bernés par les Iraniens?
Non, alors non, au contraire. Enfin, ce que démontrent les révélations de Netanyahou, et ça, Bruno Tertré aura certainement son mot à dire là-dessus, c'est que effectivement, l'Iran a archivé l'ensemble de ses recherches sur un programme clandestin. Donc il y a bien eu un programme clandestin, mais ça démontre aussi que cet archivage s'est fait quelque part fin 2003, début 2004. Donc, depuis cette époque, et ça, l'AIEA, les inspecteurs de l'AIEA l'avaient déjà dit, depuis cette époque, il n'y a pas eu de recherche structurée, en tous les cas, sur la construction d'une arme nucléaire. Ça, c'est absolument évident, d'après les documents même que Netanyahou a fait apparaître à l'écran. Donc, de ce côté-là, je crois qu'il y a une distorsion de la réalité. Ce qui a été montré prouve au contraire que le programme a bien été arrêté.
Alors Nicolas Dungan et ensuite Bruno Tertré. Nicolas Dungan.
Je crois que c'est une erreur fondamentale d'essayer de comparer les deux cas, excepté pour...
Donc les deux cas iraniens et nord-coréens.
C'est ça, excepté pour ce qui est la prise de position de Donald Trump. Et s'il a pris une position de confrontation et encore une fois de rapport de force, c'est parce que c'est tout ce qu'il connaît. Et il n'a jamais utilisé d'autres formes de mise en œuvre. Oui, il y a eu de la flatterie avec Macron, etc. Alors, mais tout sépare ces deux cas. D'abord, l'Iran a signé le traité de non-prolifération. La Corée du Nord, non.
Elle en est sortie. Elle l'avait signé, puis elle en est sortie, c'est ça?
Non, elle a annoncé son retrait. Elle fait toujours juridiquement partie du traité, en tout cas une controverse juridique sur le sujet.
D'accord.
Elle l'a bien sûr signé.
D'accord, mais ça veut dire annoncer son retrait, ça ne veut pas dire qu'elle en est sortie.
Il y a une controverse juridique sur le sujet qui n'est pas très importante, mais en tout cas elle était signataire et elle a violé ses engagements.
D'accord, Nicolas Dungan.
Voilà, et alors, donc vis-à-vis de Trump, vous avez une situation extrêmement compliquée au Moyen-Orient, un régime iranien qui n'est pas unipersonnel, où il y a des complexités en interne et il y a énormément de complexités autour. Pour ce qui est la Corée du Nord, et d'ailleurs, pour Trump, l'Iran, c'est le pays qui a pris des otages américains. C'est un pays qui n'a jamais été dompté par les États-Unis depuis la Révolution, qui a déposé le chat, qui était l'ami des États-Unis. Ça, Trump, il va s'en souvenir de sa génération. C'est des images d'Épinal. Bon, donc l'Iran, on n'a jamais réussi à contrôler l'Iran. Or, l'Iran est sponsor du terrorisme pour les Américains et pour Trump, le terrorisme, c'est le 11 septembre 2001, c'est les deux tours. Bon, donc Iran, c'est mauvais parce que c'est Iran qui fait des choses comme les deux tours du 11 septembre 2001. Donc ça, c'est une image d'Épinal d'un côté.
La Corée, ça a moins cette charge historique.
Non, mais la Corée, on a battu la Corée. On a gagné la guerre de Corée, selon les Américains. Hein. Et donc, on est dans une situation de confrontation avec la Chine. Et grâce à cette confrontation, aux yeux de Trump, c'est que la Chine se plie et nous aide sur la Corée. Bon, grâce à la confrontation, mais aussi, on a une personne devant soi, c'est un régime unipersonnel, comme le régime qu'aimerait bien avoir Donald Trump, s'il n'y avait pas tous ses sénateurs et ses congressmen et la presse autour. Et donc, il va s'asseoir avec Kim Jong-un et il va dire, oui, on va faire un deal entre nous deux. Bon, ça, il ne peut pas le faire avec l'Iran. Donc, en appliquant la même méthode à deux cas qui sont tellement différents, on essaie de comparer ce qui n'est pas comparable, sauf qu'il s'agit du nucléaire.
Bruno Tertrais.
Je reviens sur un point qui a été évoqué, qui est effectivement très important, parce qu'il dépasse de loin Donald Trump. Et il y a une obsession américaine vis-à-vis de la nature du régime iranien. Alors, je reprendrai personnellement pas à mon compte le mot dompter, je suis pas sûr que ça soit approprié, mais il y a une obsession réelle qui est due, à mon sens, à la diabolisation par l'Iran des États-Unis, parce qu'on parle de diabolisation mutuelle, j'en parle aussi d'ailleurs, mais enfin, il faut quand même avouer que le régime iranien actuel s'est construit à partir de la prise d'otages de l'ambassade américaine sur l'opposition violente délibérée aux États-Unis. On dit plus mort à l'Amérique à Téhéran, ou en tout cas on l'a dit longtemps, qu'on ne dit mort à Téhéran dans les rues de Washington ou de San Francisco. Donc ça dépasse de loin Donald Trump. C'est sa génération, vous avez raison, c'est aussi une grande partie de l'Amérique qui se souvient non seulement de ceci, mais aussi du bombardement des Marines en 1983, de plus de 100 morts, d'autres attentats, les Cobar Towers en Arabie Saoudite, et il y a aussi dans l'appareil militaire américain maintenant une très grande méfiance vis-à-vis de ce pays qui serait, et ils n'ont pas tout à fait tort, responsable d'un très grand nombre de morts de soldats américains à travers notamment les engins, les actes de terrorisme et les engins explosifs improvisés en Irak, en Afghanistan et ailleurs. Donc si vous voulez, ça dépasse de loin Donald Trump. Et là, il y a quand même quelque chose, et Trump en a parlé, qui dépasse de très loin la question nucléaire. J'irais presque, en écoutant Donald Trump hier soir, j'avais le sentiment que la question nucléaire était secondaire, finalement, dans sa manière de voir les choses. Une autre différence dont on n'a pas parlé, mais qui est fondamentale, c'est que la Corée du Nord, si elle accepte un sommet aujourd'hui avec Donald Trump, c'est que maintenant, elle se sent sur un pied d'égalité. Elle a gagné. Ses progrès nucléaires et balistiques ont été considérables dans les deux dernières années. L'investissement fait depuis plusieurs dizaines d'années a maintenant quasiment porté ses fruits. C'est-à-dire que le Graal pour Pyongyang, c'était d'avoir à la fois le missile intercontinental qui pourrait atteindre le territoire américain et un engin nucléaire militarisé qui peut être mis sur ce missile. On ne sait pas exactement s'ils ont cette capacité, mais du point de vue du monde entier, notamment de Washington, il est raisonnable de penser qu'ils l'ont. Donc, c'est cette grande différence, cette énorme différence entre l'État, tout ce qu'on sait du programme iranien nucléaire aujourd'hui, qui est effectivement sous contrôle, ou en tout cas, qui ne peut pas, à mon avis, présenter d'activités majeures, interdites, qui soient conduites aujourd'hui. Dans 10 ans, ça sera autre chose, hein, mais aujourd'hui. Et la Corée du Nord, qui est déjà parvenue au statut d'État nucléaire.
Alors, il faut voir désormais de quelle manière ces dossiers peuvent évoluer et dans quel cadre. S'agissant du dossier iranien, donc vous disiez, il n'y a pas de stratégie derrière la décision de Donald Trump. Quelle peut être la stratégie des autres signataires de cet accord? Je pense bien sûr à l'Iran, mais je pense surtout aux Européens, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, puis bien sûr la Chine et la Russie, qui disent tous depuis quelques heures, ben, on va tout faire pour maintenir cet accord. François Nicolau, cet accord, est-ce qu'il n'est pas caduc du fait du retrait des États-Unis?
Ça va être en effet très compliqué de le faire vivre, hein, très honnêtement. Parce que finalement, ça va être difficile pour l'Europe de résister aux sanctions américaines, de résister à ce rouleau compresseur. Dans quelques occasions, l'Europe est parvenue à s'unir pour résister aux États-Unis, pour obtenir notamment des exemptions aux sanctions américaines. Mais maintenant, ça devient beaucoup plus compliqué parce que la mondialisation s'est élargie. Les États-Unis ont découvert le pouvoir extraordinaire que leur donnait finalement l'utilisation du dollar comme monnaie internationale. Ils peuvent punir tout le monde et ils n'ont même plus besoin, à vrai dire, de voter des lois imposant des sanctions secondaires, c'est-à-dire frappant des pays tiers, parce que toute société un peu importante est d'une certaine façon une société américaine. Elle a des intérêts aux États-Unis, elle peut être frappée en tant que société américaine. Donc, voilà, l'accord peut avancer, effectivement, mais il avancera sur trois pattes. En boitillant beaucoup et ça va être quand même très compliqué. Les Iraniens seront forcément déçus. Ils étaient déjà déçus du peu de résultats que l'accord, en principe pleinement appliqué, encore que les États-Unis l'appliquaient quand même avec beaucoup de réticence, et avaient produit. Ils espéraient énormément de cet accord. Il y a eu des résultats, mais enfin, ils ont été quand même beaucoup plus faibles. Et là, vraiment, ça va être très, très faible. Et notamment, il y a un élément, je terminerai là-dessus, qui va quand même compliquer beaucoup la vie des Iraniens, c'est que ils ne pourront plus vendre leur pétrole à l'étranger. Du moins, ils en vendront à peu près 50% de ce qu'ils arrivent à vendre aujourd'hui. Et ça, pour les ressources, pour le budget de l'État iranien, c'est quand même extrêmement vital.
Bruno Tertrais, le fait que cette décision de Donald Trump se fasse, semble-t-il, en violation du droit international. En tout cas, c'est ce que disent certains juristes, en disant notamment dans l'accord, il n'y avait pas de clause qui autorisait un des signataires d'en sortir. Et par ailleurs, c'est un accord qui a été validé par une résolution de l'ONU, la 2231. Est-ce que ça peut être un levier pour les autres pays signataires?
Non, ça n'en est pas un. Le statut, on ne va pas faire un cours de droit international ici. Le statut de cet accord, c'est un accord qui littéralement n'a pas été signé. C'est encore moins qu'un traité, si vous voulez. Par ailleurs, les traités, en général, il y a des clauses qui permettent de se retirer légalement, justement. Par exemple, quand les Américains se retirent du traité sur les antimissiles balistiques sous George Bush, ils l'ont fait de manière légale et pour une cause qui était juridiquement légitime. Le fait que l'accord de Vienne en 2015 ait été effectivement béni par la résolution des Nations Unies de 1231, à mon avis, ne donne pas aux Européens un levier important, ce n'est pas le sujet, si vous voulez. Même si, en admettant qu'il y ait un sujet juridique, c'est pas là-dessus qu'on va pouvoir confronter les États-Unis. La bataille, elle va être, parce que ça va être une bataille, je pense qu'il faut que ça en soit une, puisque nos intérêts économiques aux États-Unis et incidemment au Moyen-Orient, mais surtout aux États-Unis, sont en jeu. Nous allons, et puis il y a des affaires de principe, tout simplement. Cette affaire révèle effectivement à quel point les Européens et le reste du monde sont dépendants du bon vouloir de l'administration et de la justice américaine. Ce qui fait d'ailleurs un petit peu rire quand on entend, quand on se souvient de certains auteurs que je ne citerai pas, mais qui nous promettaient il y a 10 ans la fin de la puissance américaine, le 21e siècle ne sera pas américain, etc. Bon, bah. Malheureusement, c'est pour eux en tout cas, c'est le contraire. Donc là, il y a un vrai sujet qui va se traiter essentiellement entre l'Union européenne, entre Bruxelles et Washington, notamment sur les questions commerciales. Et c'est là qu'il faudra qu'effectivement l'Europe soit unie.
Alors j'allais justement vous poser la question, Nicolas Dungan, de quel poids pèsent les Européens aujourd'hui face à la volonté américaine et de Donald Trump de n'en faire qu'à sa tête. C'est pas un vocabulaire très diplomatique, c'est pas comme ça qu'on parle, mais en tout cas, c'est la question qu'on peut se poser. On a vu que certains nombres de dirigeants européens, Emmanuel Macron, Angela Merkel, avaient essayé, dit-on, de convaincre le président américain de ne pas se retirer. Bon, bah, c'est un échec.
Ben, comment dire, bon français, la réponse est dans la question, parce que c'est cela. Que pèse l'Europe? L'Europe pèse d'une façon diplomatique, économique, avec de l'influence. Mais ce qu'on a vu depuis hier, et d'ailleurs depuis l'arrivée de Donald Trump, c'est que Donald Trump ne conçoit pas l'influence autrement que comme étant la puissance. Or, l'influence qui a été l'équilibre des influences qui a caractérisé l'ordre libéral international depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un ordre construit par les États-Unis, mais répugné par Donald Trump, cet ordre-là, il est en train de le faire chanceler. Or, le discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès américain était une défense à outrance de cet ordre libéral international. Et on voit très bien que si on ne conçoit l'influence que comme la puissance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne volonté, et encore une fois, on conçoit les relations simplement en termes de rapport de force et de confrontation. C'est la troisième fois que je le dis, donc je ne le ferai plus. Néanmoins, en même temps, la réalité, c'est que on ne peut pas. Le problème des États-Unis, c'est que c'est un pays qui a perdu énormément d'influence, qui a perdu énormément de soft power, qui a perdu énormément d'attractivité depuis l'arrivée de Donald Trump, mais qui n'a pas perdu de la puissance. Et donc, Trump joue sur la puissance et jusqu'ici, il déstabilise tout le monde. Et ça, on l'a vu hier en réponse à votre question, que Merkel, Macron, May, les trois M, représentés tant bien que mal par Boris Johnson, mais n'ont pas pesé.
Alors cette question, à la fois du dossier nucléaire iranien et du dossier nucléaire nord-coréen, pose aussi le problème du cadre dans lequel peut s'envisager la question notamment de la non-prolifération nucléaire. Il y a 50 ans était adopté le traité de non-prolifération, c'était le 1er juillet 1968, il est entré en vigueur en 1970. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui ce cadre-là de négociation ne sert plus à rien du fait de la décision américaine de gérer finalement seul ces questions? Nicolas Dungan?
Je dirais que c'est au cas par cas. Parce qu'on sait qu'Israël a l'arme nucléaire et n'a pas signé, justement, le traité. La même chose est vraie de l'Inde et du Pakistan, et on vit avec depuis très longtemps. Donc, dire que ce cadre juridique, justement, est violé dans ses principes, non, c'est au cas par cas.
Si ce n'est violé, en tout cas, peut être rendu relativement inutile. François Nicolau et ensuite Bruno Tertrais. François Nicolau?
Non, mais alors, ce qui est vrai, c'est le traité de non-prolifération est un socle indispensable. Hein. Ça, l'idée que, parce qu'il n'est pas bon, il faudrait le jeter à la poubelle, créerait une situation absolument ingérable. Mais ce qui est vrai, c'est que les pays les plus directement concernés par la non-prolifération, c'est-à-dire ceux qui ont la bombe et qui, au fond, n'ont pas tellement envie que les autres l'acquièrent, eh bien, ces pays-là, donc, trouvent le traité de non-prolifération tout à fait insuffisant, parce que il interdit effectivement à celui qui a adhéré hein, d'acquérir la bombe, mais il ne lui interdit pas d'acquérir toutes ces technologies duales qui sont civiles mais qui ont un intérêt militaire et qui lui permettent petit à petit d'arriver au seuil de l'arme nucléaire, d'arriver juste à la porte, de ne pas franchir la porte parce que là il sera en contravention avec ses engagements, mais de pouvoir le faire à tout moment. C'est l'histoire de l'Iran en fait. C'est bien ça l'histoire de l'Iran. Et c'est pour ça qu'on veut faire reculer ces pays-là, les empêcher d'approcher du seuil.
Mais François Nicolau, si ce traité était pleinement efficace, est-ce qu'il ne devrait pas suffire justement à gérer ces deux dossiers que sont les dossiers nucléaires iraniens et nord-coréens?
Non, parce que précisément, il ne contient pas les clauses qui permettent de retenir ces pays d'arriver jusqu'au seuil. Et donc, c'est les pays, les cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité qui ont donc la bombe, qui sont autorisés par le traité à avoir la bombe, veulent empêcher les autres pays dont ils s'inquiètent qu'ils acquièrent ces technologies. Mais un pays comme l'Iran, et c'est ça le drame, c'est qu'il dit, mais on m'empêche d'acquérir des technologies modernes. On veut me maintenir dans l'arriération, on veut me maintenir comme un pays sous-développé dont on va exploiter le pétrole, et ensuite, quand il n'y aura plus de pétrole, eh bien, il retombera dans la pauvreté et le sous-développement. Donc là, il y a vraiment une dimension psychologique extrêmement forte et qui est au nœud de la crise actuelle.
Bruno Tertrais.
La psychologie des Iraniens, c'est quelque chose dont on pourrait rire si le sujet n'est pas grave, parce que ceux qui vous mentent effrontément en disant qu'ils n'ont jamais eu d'intention nucléaire militaire, c'est quand même un peu fort de café. Et surtout, évidemment, personne n'a jamais interdit à l'Iran de se doter de centrales nucléaires civiles, bien au contraire. Mais c'est vrai que ce discours que rappelait François Nicolau, il est très populaire, à la fois dans l'élite iranienne et aussi vis-à-vis du reste du mouvement des non-alignés. Mais puisqu'on reparle de l'ordre nucléaire, le traité de non-prolifération, c'est une norme. Une norme qui a marché, ça marche. C'est un des traités les plus universels qui soit. Il y a très peu de pays finalement qui ont la bombe et très peu de pays qui sont tentés de l'avoir, semble-t-il. Il y a 10 ou 15 ans, il y en avait encore quelques-uns. Aujourd'hui, moi, hormis le cas de l'Iran peut-être, Et si on part du principe que la Corée du Nord est déjà un État nucléaire, ce qui me paraît raisonnable, je ne connais pas d'autres pays non nucléaires qui soient tentés de le faire. Donc c'est une norme qui marche, qui a fonctionné. Mais ça n'est rien d'autre qu'un cadre juridique. Ça n'est pas là qu'on négocie les crises internationales. Donc il ne faut pas lui demander la plus belle fille du monde, le plus beau traité du monde ne peut donner que ce qu'il a. Le TNP, ce n'est pas fait pour négocier les crises. Donc c'est assez normal qu'on essaye de régler ces crises par des formats ad hoc. On avait essayé avec la Corée du Nord, avec ça s'appelait les six party talks, les pourparlers à six. Ça n'a pas vraiment fonctionné, en tout cas pas pleinement. Il y a eu le format dit P5+1, désolé pour tous ces acronymes, mais ce sont des groupes de pays qui négocient de manière ad hoc des accords. Et avec l'Iran, ça a plutôt marché. En tout cas, moi je fais partie de ceux qui ont dit que l'accord de 2015, il aurait pu être meilleur, c'est vrai. Je ne crois pas du tout à la thèse de l'administration Obama qui disait que c'était ça ou la guerre. Non, il aurait pu être meilleur. Mais enfin, maintenant qu'il est là, il vaut mieux infiniment le préserver plutôt que de le flanquer par terre.
Et est-ce qu'on ne peut pas faire le pari que ce sera, pourquoi pas, finalement, dans le cadre de relations bilatérales avec les États-Unis à la manœuvre, que ces dossiers-là avanceront davantage qu'ils n'ont pu le faire. Quand on regarde, par exemple, la Corée du Nord, on verra bien ce qui va se passer par la suite, mais le changement est quand même assez spectaculaire. Il faut se rappeler qu'il y a 6 mois, hein, tout le monde évoquait peut-être un conflit nucléaire. Aujourd'hui, on est en voir les dirigeants coréens se serrer la main et Donald Trump annoncer son arrivée à Pyongyang.
Qui sait ce que ce sera dans 3 jours avec Donald Trump? Je vous rappelle que pendant la campagne électorale, il disait « Tiens, j'aimerais bien aller manger un hamburger avec Kim Jong-un ». Hein ? Donc, l'imprévisibilité de la Corée du Nord n'est dépassée, surpassée que par celle de Donald Trump. Donc, moi, je ne sais pas où on va, mais je sais où on ne va pas. Et on ne va pas à une négociation qui va conduire à la dénucléarisation de la Corée du Nord, qui a été le seul pays au monde, le premier pays au monde, en tout cas, à inscrire son statut nucléaire dans sa constitution. Même la France n'a pas fait ça. Et Dieu sait si elle tient à son arme nucléaire.
Nicolas Zengan ?
Moi, je vais me hasarder sur une prévision optimiste. Depuis la chute du mur de Berlin et la mondialisation, on a vu une crise d'identité s'instaurer aux États-Unis. D'abord, Clinton a essayé d'avoir une politique étrangère très laissez-faire. Ça a marché, c'était l'Internet, c'était la mondialisation, la réduction de la dette américaine, la fin du déficit avec Robert Rubin, tout marchait bien. Ensuite, avec George W. Bush, c'était l'après 11 septembre, et c'était d'essayer de procéder par la force, le changement de régime. C'est de là que vient Bolton, c'est de là que viennent les idées de Pompeo aujourd'hui.
Et ça, je rappelle, Bolton, c'est le conseiller à la sécurité de Trump, et Pompeo, c'est le secrétaire d'État.
C'est le nouveau secrétaire d'État, ancien directeur de la CIA. L'idée d'instaurer les changements de régime par la force, de déstabiliser le Moyen-Orient, d'instaurer la démocratie en imposant des élections là où il n'y en a jamais eu, ça n'a pas marché non plus. Donc ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, c'est Obama. Obama, c'est la doctrine Obama qu'il a exprimée en 3 points à West Point, c'était essentiellement que les États-Unis se comportent comme un pays comme les autres. Bon. Donc, on va pas procéder par la force, on va utiliser la diplomatie. On va pas faire des choses seules quand on peut faire avec des partenaires. Et on va procéder par les institutions internationales le plus possible. Bon. Trump, c'est le contraire. Je pense qu'après Trump, il y a énormément d'Américains, et pas seulement le Washington Post et le New York Times, mais tout l'establishment américain, tous ces gens bien pensants qui conçoivent et comprennent l'importance de cet ordre libéral international, qui ont participé à sa construction. Je pense à des gens comme Nicholas Burns, qui a été l'un des négociateurs du début avec l'Iran. J'étais dans le bureau de Stanislas de la Boulay au Quai d'Orsay le jour où les États-Unis ont rejoint les P3. Donc c'était les P3, donc la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, plus les États-Unis, ensuite la Chine et ensuite la Russie. Donc des gens comme cela sont écœurés, totalement écœurés, non seulement déçus, mais vraiment ils ont un sentiment de haut le cœur, ils en sont littéralement malades, et cela devient, et c'est ce à quoi faisait allusion Bruno Tertré tout à l'heure, ça devient extrêmement difficile en tant que commentateur et en tant qu'expert à ne pas tomber dans cette espèce de psychanalyse très personnalisée, parce que le comportement de Trump est tellement outrageux et tellement outré que on ne conçoit même pas comment on peut le tolérer. Dès lors qu'il trouve, je vais utiliser le mot dompté, dès lors que quelqu'un trouvera le moyen, que ce soit politique, juridique, diplomatique, économique ou autre, de dompter, ou du moins de contenir le comportement de Donald Trump, à ce moment-là, vous allez voir une vague internationaliste venant des États-Unis et un rétablissement, à mon avis, assez rapide de la bonne Amérique que tout le monde souhaite avoir au centre du système international.
Alors qui est en mesure, ou qu'est-ce qui sera en mesure de contenir Donald Trump ?
Je ne suis pas aussi optimiste que Nicholas Dangan, notamment parce que je crois qu'il ne faudrait pas se dire que l'Amérique de Trump c'est la mauvaise Amérique et que la bonne Amérique c'est l'Amérique d'Obama. En tout cas, c'est pas un jugement que je partage. Je vous suis en revanche lorsque vous dites que il faut pouvoir quelque part, et là j'utilise ce mot comme vous, dompter, amadouer Donald Trump. C'est ce qu'essaye de faire tant bien que mal Emmanuel Macron, d'ailleurs, et dont la relation, à mon avis, sera précieuse si la crise continue à escalader. Parce qu'avoir une relation de confiance entre deux dirigeants, même très opposés, c'est important, surtout en cas de crise grave. Là où je suis d'accord, c'est qu'il faut être relativement optimiste, de manière générale, sur l'évolution du système international, parce que, franchement, l'écroulement de l'ordre libéral, etc., on en parle beaucoup depuis quelques mois avec Trump, et avec raison, mais souvenons-nous, c'était pas il y a si longtemps que ça, entre 2001 et 2004, combien d'éditoriaux, de tribunes, de commentaires nous disant « ça y est, c'est fini, l'ordre de 1945 voilà. est par terre ». Donc je crois je partage en tout cas une partie de l'optimisme de Nicholas Dangan sur ce point.
Le fait même qu'on redoute l'écroulement de cet ordre libéral international veut dire qu'on est prêt à le défendre quelque part.
En tout cas, nous, Européens, oui.
Je ne sais pas quel est le niveau d'optimisme ou de pessimisme de François Nicolau. François Nicolau ?
Effectivement, si Trump réussit son pari, si vraiment par la violence, par la brutalité, par la pression, il arrive à régler le cas nord-coréen et le cas iranien, il mérite le prix Nobel, hein, ça c'est clair.
Mais il a davantage qu'Obama ?
Voilà, encore mieux qu'Obama qui n'avait vraiment rien fait pour l'obtenir. Mais en revanche, je crois que ça a quand même assez peu de chances de réussir parce que son conseiller, là, John Bolton, dont on a parlé, il a montré le bout de l'oreille. Il a dit « notre modèle, c'est le cas libyen ». Et en effet, Kadhafi avait à un moment un programme nucléaire et par la pression, il est arrivé et il a décidé de l'abandonner. Mais malheureusement, ça lui a coûté assez cher parce que quand on a arraché les dents nucléaires du fauve, hein, de la bête, eh bien ensuite, il est facile de l'abattre. Et c'est un peu ce qui est arrivé à Saddam Hussein. Et ça, les exemples de Kadhafi et de Saddam Hussein, ils sont dans la tête des dirigeants. Quand on commence à s'engager sur la voie nucléaire, voilà, faire machine arrière, céder un moment, c'est quand même prendre de gros risques. Et je crois que voilà, c'est un peu la leçon qu'on peut tirer à l'heure actuelle et les inquiétudes qu'on peut avoir.
Et pour ajouter peut-être un dernier exemple qui est dans la tête de Kim Jong-un, le leader nord-coréen, François Nicolau, est-ce que le fait de voir un Donald Trump qui se retire d'un accord qu'il avait signé, ça peut les inciter à une forme de prudence en se disant finalement, on n'a peut-être pas intérêt, si tant est que ce soit vraiment leur intention, à dénucléariser notre pays, parce qu'on ne sait pas ce que valent les accords avec le président des États-Unis.
En effet, c'est ambigu. Comme je disais tout à l'heure, en se retirant de l'accord, Trump met la barre très haut. Il explique aux Coréens, aux Nord-Coréens, bien entendu, qu'il ne voudra pas d'un compromis à la Obama. Mais en même temps, effectivement, dans la mesure où il rompt quand même un engagement américain, même si ce n'est pas un engagement juridique fort, hein, comme ça a été expliqué précédemment, ben voilà, il décrédibilise sa parole et on est pris en effet dans une ambiguïté.
Eh bien, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Nicholas Dangan, François Nicolau et Bruno Tertrais. Discussion que vous pouvez réécouter comme chaque soir sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grand Amour. Vous pouvez également télécharger l'émission. Vous pouvez regarder des extraits vidéo. Il faut attendre le lendemain en général. Il n'y aura pas François Nicolau hein, puisqu'il était au téléphone. Écrivez-nous si vous avez des choses à nous dire. Merci à toute l'équipe du Grain. Fanny Richet, Antoine Tricot, Isolde Sicard, Antoine Dulster et Prune Saez, émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Anthony Thomasson. Dans 3 grosses minutes, vous retrouverez la dispute avec Arnaud Laporte.
Qu'est-ce qu'elles ont de grosses, ces minutes?
3 grosses minutes, c'est pas tout à fait 4 minutes,
vous voyez. Bon, un peu plus de 3 minutes, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, c'est ce que je voulais dire.
De dire que dans un peu plus de 3 minutes, nous parlerons d'art plastique dans la dispute et le temps de nous dire aussi quelle sera la question posée dans Du Grain à Moudre demain, Hervé Gardette.
Et ben demain, jour férié, on va se demander si le jeudi de l'Ascension pourrait être une nouvelle journée de solidarité pour financer quoi? La dépendance. Mais qui doit financer la dépendance? Ce sera notre sujet demain. Vous n'avez pas l'air de comprendre.
Non, financer la dépendance.
Et ben, voilà, revenez demain à 18h20.
Je n'ai pas compris toute la question, mais je
l'écouterai. Vous êtes trop jeune pour comprendre. La dépendance, vous voyez, la dépendance, la vieillesse.
Ah, cette dépendance-là, ah, non, mais parce que vous savez qu'il y a différentes sortes de dépendances. Bon, on va peut-être, peut-être continuer le programme.
Beaucoup
plutôt.
De débats autour du vocabulaire ce soir.
C'est vrai, mais c'est normal, et on est sur France Culture. Si ici on ne s'interroge pas sur les mots, où le ferons-nous?